France Culture. Bonjour Dominique Schnapper.
Bonjour Caroline.
On se retrouve pour le quatrième épisode consacré à vos réflexions sur la condition juive. Un des motifs majeurs de votre œuvre, vous avez consacré à cette question plusieurs ouvrages, depuis Juifs et Israélites en 1980, jusqu'au recueil Temps inquiets, paru en 2021, en passant par La condition juive en France, La tentation de l'entre-soi, c'était en 2009, ou encore La citoyenneté à l'épreuve, sur la démocratie et les Juifs, paru en 2018. Et puis par ailleurs, et vous êtes également la présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme depuis 2012. J'ai une première question qui va peut-être vous paraître saugrenue, mais allons-y, Dominique Schnapper, c'est que en préparant ces émissions, et notamment celle-ci, je me suis dit, sujet sensible, sujet délicat, et j'ai eu la réplique de Géronte. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? D'où ma question. Que diable allez-vous faire dans cette galère de vous intéresser à cette question de la condition juive en France?
Elle s'est imposée à moi, c'est-à-dire que j'avais commencé à travailler, mon premier livre était sur l'Italie, sur mon séjour à Bologne, et sur les modèles culturels de la vie bolognaise et donc italienne. Et à ce moment-là, à cette période-là, il y avait beaucoup de contrats qui étaient donnés par l'État sur telle ou telle population, et j'avais eu la charge d'une enquête sur les immigrés italiens. Et c'était ça m'avait intéressé de voir ce que devenait ce que j'avais observé à Bologne dans la situation d'immigration. Et j'ai fait 2-3 articles sur cette question. Et puis, dans une rencontre dont je ne me souviens plus l'objet, Annick Riegel m'a dit « Ah ben, vos immigrés italiens, ils deviennent vraiment français rapidement, tandis que les juifs, ils restent juifs. » Bon, je n'ai pas su quoi dire. Avec le sentiment que cette comparaison, j'ai pas su quoi dire sur le moment, mais ça s'est réfléchi sans que j'en ai vraiment conscience. Et donc c'est là où j'ai fait ce projet de poursuivre la même interrogation sur le prolongement des modèles culturels dans le cas des Juifs. Et comme j'étais très indépendante. À l'école des hautes études, j'avais les inconvénients de cette indépendance, mais j'en avais les avantages. Et donc, au cours des années 70, je crois que les premières enquêtes ont commencé en 1975, j'ai construit ce projet alors que j'étais parfaitement ignorante du problème. Je ne connaissais pas le judaïsme.
Vous aviez un père juif.
J'avais un père juif.
Mais qui ne s'était jamais revendiqué.
Qui avait toujours dit lui-même qu'il était déjudaïsé. C'est-à-dire que la dernière trace de pratique religieuse, c'est une ketouba, c'est-à-dire un certificat de mariage de mes grands-parents en 1901. Et puis ça s'était arrêté là. Mon père était typique de ceux que j'appelle des israélites, c'est-à-dire ceux qui, bien sûr, savent qu'ils sont juifs, à qui, la conscience des problèmes du XXe siècle a fait réfléchir sur la question, mais qui spontanément se sentait héritier, parce que c'est un fait, ses parents et grands-parents, mais qui n'avaient pas ni de conscience, ni de pratique, ni de connaissance du judaïsme. Et donc, quand je m'y suis mise en 75, j'ai pris, comme pour le Conseil constitutionnel par la suite, j'ai pris les livres sur le judaïsme, enfin, j'ai pris une connaissance tout à fait extérieure du problème, et puis au cours des enquêtes, au cours de la réflexion, le problème s'est imposé à moi comme étant un problème sociologique crucial, révélateur, significatif, enfin qui posait des tas de problèmes. Et puis il me semble aussi que, je veux dire, nous ne craignons pas grand-chose dans la société dans laquelle nous vivons, et donc prendre le risque de parler d'un sujet aussi sensible n'était pas un risque considérable. Et à l'époque, le sujet était moins sensible et moins passionné qu'il peut l'être aujourd'hui. Je fais partie de cette génération qui a eu l'illusion que le prix avait été considérable, mais que, une fois pour toutes, l'antisémitisme n'était plus possible après ce qui s'était passé pendant la guerre. C'était évidemment une illusion, mais j'ai participé de cette illusion. Et c'était à un moment donné dont on parlait peu du problème,
C'est un moment où la Shoah arrive sur la place publique.
On commence à en parler, mais d'une façon qui ne soulevait pas les passions. Et le livre n'a pas... Et je pensais que, comme tout problème, à la fois, il pouvait être traité de manière sociologique, et en même temps que la sociologie n'épuisait pas le sens de cette histoire particulière. Donc, le seul moment où j'ai... où, semble-t-il, Pierre Bourdieu, depuis qu'on était brouillés, avait fait un compliment, c'est qu'il avait dit que je l'avais vraiment trouvé traité en sociologue, que ça prouvait que j'étais une vraie sociologue parce que c'était un sujet qui ne s'y prêtait pas. Donc j'espère que c'est vrai. En tout cas, ça a été le projet, à la fois de le traiter de cette manière aussi rationnelle que possible, tout en sachant ce que la rationalité sur un problème pareil peut laisser échapper.
Alors, on peut aussi prendre les choses dans l'ordre en commençant par le commencement, c'est-à-dire ce premier livre en 1980, Juif et Israélite, dans lequel vous établissez des typologies. Alors même, Dominique Schnapper, qu'on sait que parmi les Juifs de France, il y a autant de façons d'être juif que d'individus.
Oui, bien sûr. Mais il y a autant de façons d'être humain que d'individus. D'une façon générale, la sociologie essaye d'établir des caractéristiques propres de différents domaines, de différentes manières d'exister, de différentes conditions. Elle ne réduit pas les individus à ces analyses. Elle apporte de la compréhension ou de la clarté à des entreprises qui sont individuellement très différentes, mais c'est le cas de tous les comportements humains. Ils ne sont jamais entièrement réductibles à la raison qu'en tirent les modèles sociologiques.
Alors, qui étaient les Juifs, qui étaient les Israélites en 1980 ?
Alors, Juifs et Israélites... ce titre qu'il faut maintenant beaucoup défendre, car on est en train de faire une réédition du livre qui va paraître dans un mois.
Et, en mars 2025.
Oui, en mars 2025. Et il a fallu beaucoup se battre chez Gallimard pour garder le titre, parce que le terme d'israélite était celui que les citoyens français juifs jusqu'à 1940, utilisés pour se désigner eux-mêmes et insister de cette façon sur leur dimension de citoyens français. Et se distinguer aussi des juifs traditionnels qui pouvaient apparaître comme étrangers aux citoyens universels qu'avait créé la Révolution française et les droits de l'homme. Et les Israélites n'ont pas cru qu'ils étaient menacés de la même façon que ces juifs traditionnels qui, eux, étaient vraiment juifs. Et puis la guerre a montré que les Israélites et les Juifs ont connu le même destin, et par conséquent, les Israélites sont apparus rétrospectivement comme ayant été d'une grande naïveté, de ne pas s'être solidarisés avec ceux qui allaient être les victimes de la Shoah, et le terme est devenu péjoratif dans le milieu. Désormais, on se revendique comme juif. Et donc... soit le terme de juif, soit le terme d'israélite, et l'utilisation successive d'un terme ou de l'autre me paraissait caractériser cette dialectique ou cette manière d'être en même temps fidèle à un certain judaïsme, à des certaines formes de judaïsme, il y en a beaucoup, et en même temps citoyen d'une société démocratique. Et le passage d'un terme à l'autre que j'utilisais dans un terme d'une façon tout à fait neutre, sans prêter à israélite ni un caractère péjoratif, ni un caractère laudatif, c'était la description d'une manière d'être juif qui a dominé le monde des juifs français, disons, de la fin du 19e siècle jusqu'à 1940. Ceux qui, tout en restant fidèles de façon différente au judaïsme, se percevaient eux-mêmes et se conduisaient eux-mêmes avant tout comme des citoyens d'une société qui, par un miracle admirable, respectait les droits fondamentaux du judaïsme.
En 2009, avec Chantal Borde, Ben Ayoun et Freddy Raphaël, vous avez travaillé dans différentes régions, à Strasbourg, à Toulouse et en région parisienne. C'est des enquêtes que vous avez menées. Et ce livre montrait donc la condition juive en France, la tentation de l'entre-soi. Je pense que le sous-titre dit bien
important, oui.
ce qu'il en est. Vous montriez que même si les Juifs avaient su parfaitement intégrer le modèle républicain français, ils étaient à ce moment-là dans votre enquête en tout cas, c'est ce qu'il ressortait de cette enquête, tenté par une forme de communautarisme, de tentation, de repli, et vous mettiez en garde avec vos co-auteurs contre une double tentation de vivre entre soi d'un côté et d'intervenir en tant que juif dans l'espace public, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là.
Oui, l'enquête qui a été publiée en 2009, qui a été réalisée au cours des 2-3 années précédentes, venait 40 ans après la précédente. Les problèmes n'étaient pas les mêmes. Et la population avait changé. D'abord, la population récemment arrivée dans les années 70, c'est-à-dire la population dont la présence tenait à la décolonisation, c'était maintenant tout à fait intégré dans le monde du judaïsme français et dans la société française. Donc elle avait les juifs objectivement étaient dans une autre relation avec la société, et surtout l'idée qui nous guidait tous les trois, c'était qu'on pouvait pas analyser le cas des juifs indépendamment d'une analyse de la société française, parce qu'ils suivaient évidemment dans tout leur comportement, dans toutes leurs attitudes et dans toute leur réaction, ce qui était l'évolution de la société française, et que la tentation du communautarisme juif était à l'image de la tentation de l'ensemble des communautarismes. Et devant la montée de l'antisémitisme, qui date du tournant du siècle, c'est à partir de 2000 que les chiffres des atteintes antisémites augmentent très fortement, et devant cette montée d'antisémitisme qui les a surpris pour la majorité d'entre eux, une tentation de se replier entre soi pour se protéger contre le mal. Mais nous sommes 40 ans après, et donc les problèmes ne sont pas exactement les mêmes, parce que la société elle-même a changé. Les réactions vis-à-vis des juifs ont changé, enfin, la situation politique a changé.
Ce qui fait que votre typologie de 1980 a évolué elle aussi?
Non, elle a servi à étudier cette évolution. Comment est-ce que les pratiquants sont devenus plus pratiquants ou moins pratiquants? Comment est-ce que les militants, leur rapport à Israël a changé? Il reste ce rapport privilégié à Israël, mais avec plus de doutes, plus de tentations, parce que la situation d'Israël a changé. Et donc la typologie a été reprise pour étudier les modifications concrètes qu'on pouvait observer dans la population.
Dans le troisième livre de Dominique Schnapper en 2018, La citoyenneté à l'épreuve, il me semble que vous élargissez ce que vous avez énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire le cas des Juifs par rapport à l'évolution de la société française, puisque vous interrogiez la façon juive d'être français d'un côté, et de l'autre côté, la démocratie à travers la minorité juive. Et vous montrez que l'exemple des Juifs, en tant que minorité dans la France, nous enseignait beaucoup sur la construction de la nation moderne et sur le projet démocratique, sur ses vertus, sur ses réussites, mais aussi sur ses échecs, sur ses failles, sur ses limites, sur ses dévoiements. Pourquoi cette minorité juive nous enseigne autant de choses, et pourquoi partir des Juifs pour étudier plus largement cette fois la démocratie?
Il y avait une double idée. Il y avait qu'en effet, le cas des Juifs est significatif des vertus et des limites de la démocratie. Et en même temps, il y avait un objectif politique de rappeler que la condition juive en Europe n'est jamais supportable que dans les démocraties. Et la raison pour laquelle le cas des Juifs me paraît significatif, c'est que les Juifs en Europe sont les héritiers d'une histoire tragique, d'une histoire de persécution, d'expulsion et de discrimination sous toutes les formes. Et la démocratie se fonde sur l'idée de l'égalité de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, leurs histoires et leurs croyances. Et par conséquent, elle se forme sur un principe qui devrait évacuer l'antisémitisme. Si la démocratie était parfaitement conforme à ses propres valeurs, il n'y aurait pas de place pour l'antisémitisme. Et c'est dans la mesure où on constate qu'il y a de l'antisémitisme dans toutes les démocraties, qu'on peut souligner les limites, justement, de la démocratie. Et les faiblesses du principe par rapport aux passions qu'on peut appeler ethniques, qui sont héritées de cette histoire particulière des Juifs. Donc, les héritiers de cette minorité persécutée ne connaissent un destin social acceptable que quand la démocratie est assez forte pour imposer ses principes et contrecarrer, canaliser, on peut pas les supprimer, les passions des hommes, mais on peut les canaliser et les organiser de telle façon qu'ils restent personnels. Il peut toujours y avoir de l'anti-judaïsme, mais quand il est personnel ou privé, c'est pas un problème politique. Le problème, c'est quand il vient ce que les anglophones appellent « a political issue ». Et quand l'antisémitisme devient un « political issue », c'est-à-dire un problème proprement politique, c'est d'une part que le destin des Juifs devient problématique, et d'autre part que la démocratie est ébranlée, disons. Et c'est ce qu'on observe depuis le premier quart du XXIe siècle. C'est-à-dire que les démocraties européennes sont ébranlées, et la meilleure preuve en est cette montée de l'antisémitisme.
Oui, parce que votre réflexion nécessairement ne peut être séparée de la haine envers les Juifs, de cet antisémitisme, et vous partez de l'idée que les menaces contre les Juifs ont toujours précédé le naufrage de la démocratie, ce qui est très très fort. Vous l'écrivez noir sur blanc, toute crise d'antisémitisme traduit une crise de la démocratie. En quoi est-ce que le destin des Juifs et le destin de la nation démocratique sont-ils conjoints? Est-ce que c'est parce que il y a une histoire très particulière, comme vous venez de le rappeler, des Juifs qui ont gagné leur émancipation sous la Révolution française en 1791, qui a accordé aux Juifs la pleine citoyenneté, et que l'histoire de la nation démocratique s'est construite justement conjointement? Est-ce que c'est parce que c'est spécifique à cette minorité juive? Comment l'expliquer?
Parce que les sociétés chrétiennes dont nous sommes les héritiers se sont construites contre le judaïsme. Lévinas disait « le christianisme, c'est une secte juive qui a réussi ». Et le poids du conflit, de la concurrence séculaire des deux religions a construit la chrétienté européenne. Et donc elle est vraiment inscrite dans une, ce que Durkheim appellerait une conscience collective très profonde de nos sociétés. Et les passions tristes, comme disait Spinoza, font partie des sociétés humaines. Et l'édit d'émancipation de 1791 entraîne une véritable rupture en affirmant l'égalité que toute l'histoire avait construite comme une inégalité fondamentale entre les chrétiens, qui étaient les vrais humains, et les juifs, qui étaient leur opposé et la justification du traitement qui leur était réservé. Et donc, la force de la rationalité de l'idée de liberté et d'égalité de citoyens, qui n'est pas une idée spontanée, qui est vraiment le produit d'une construction intellectuelle et rationnelle qui consiste à canaliser les passions, ben, cette idée est faible pour canaliser ces vieilles passions qui sont tellement inscrites dans toute la civilisation chrétienne qui est celle de l'Europe. Et quand l'Amérique est née, l'Amérique démocratique des États-Unis est née, elle a tout de suite proclamé l'égalité de tous les citoyens, y compris les Juifs. Donc ça n'a pas empêché l'antisémitisme, mais dans son principe même, la démocratie américaine a affirmé l'égalité de tous les citoyens et donc des Juifs. Et dans La citoyenneté à l'épreuve, j'essaye de montrer comment à la fois l'instauration des principes démocratiques a conduit à accorder les droits civils, juridiques et politiques à toutes les populations, dont les Juifs, et en même temps combien il y avait une résistance sociale qui a fait que on observe dans tous les cas les limites à cette intégration des Juifs au même degré que les autres populations.
Des limites, et en même temps, c'est aussi une réponse, peut-être que c'est dans ce livre que vous arrivez à répondre à votre interlocutrice en Italie, puisque vous y montrez quand même la coprésence dans la nation de la citoyenneté, du civisme qui dépasse le particularisme, et justement de ce particularisme, c'est-à-dire que avec les Juifs, on peut sentir, quand on est juif, on peut se sentir et juif et républicain au même niveau. On n'est pas juif-juif, comme elle
oui,
vous dit.
Parce que je pense que la valeur du principe démocratique, cette séparation du politique et du religieux, qui veut dire qu'on est tous égaux dans le monde du civisme, dans l'espace public, mais qu'en même temps, à condition que ces caractéristiques ne soient pas contradictoires avec l'ordre commun, on peut parfaitement rester fidèle à une histoire, à des croyances, à des traditions particulières, à condition qu'elles ne soient pas contradictoires avec la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Et que l'exemple juif devrait et constitue d'une certaine façon le principe républicain lui-même, qui est cette liberté de fidélité à des valeurs, à des croyances, à des histoires, et la pleine égalité dans le monde, dans la sphère publique, celle du citoyen.
C'est peut-être ce qui les rapproche des protestants ?
Oui, ça rapproche, en France en tout cas, où les protestants sont une minorité, ce qui n'a pas
qui
empêché...
Qui a été persécuté longtemps.
Oui, ce qui n'a pas empêché d'être... qu'il y a un courant protestant extrêmement antisémite, mais aussi, en France en tout cas, des formes de solidarité de minorité. Le fameux Chambon sur Lignon, c'était la solidarité de deux minorités. Et je pense que la citoyenneté à l'épreuve, c'était comme ça de montrer un certain nombre de cas particuliers et de la manière, dans un certain nombre de pays, il y avait cette conjonction pour les Juifs à la fois d'être des citoyens et d'être fidèles, et en même temps la perpétuation de ces sentiments d'hostilité qui les accablaient.
Sentiment d'hostilité, Dominique Schnapper, qui va croissant. Vous avez publié en 2021 « Temps inquiets ». Là encore, le titre dit bien ce qui est. Il est intéressant, ce « Temps inquiets », parce que c'est un recueil de textes que vous avez rassemblés au cours des 40 ans, souvent réaction à l'actualité. Alors, est-ce que en ayant compilé ces articles écrits sur 40 ans, vous diriez que les temps sont plus inquiets en 2021 qu'ils ne l'étaient auparavant ?
Oui, je pense que oui. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, encore une fois, dans les années 70, le souvenir de la Shoah, la solidarité avec Israël, donnait des dimensions particulières à la condition juive. Mais mes interviewés, spécialement dans certains milieux, se déclaraient encore très souvent des victimes de l'antisémitisme. Dans d'autres cas, ils disaient qu'il n'y avait pas de problème. Enfin, la situation était mélangée. Maintenant, je pense que si on faisait exactement la même enquête, on n'aurait que des réponses sur le fait que, parce que c'est un fait, que l'antisémitisme est maintenant accepté, que beaucoup d'enfants juifs ne peuvent pas rester dans les écoles publiques parce qu'ils sont en danger, que les problèmes liés aux événements qui se passent en Israël ont des conséquences directes sur les relations avec les Juifs en France, quelles que soient leurs opinions, que l'hostilité à l'égard du gouvernement Netanyahou se traduit par une hostilité à l'égard de tous les Juifs de France, quelles que soient leurs opinions. Enfin, qu'on se retrouve ces formes d'antisémitisme qui essentialisent un certain nombre de données. Et les temps sont aujourd'hui beaucoup plus inquiets. Ils sont beaucoup plus inquiets pour les Juifs. Et encore une fois, il se montre de façon significative une situation dans laquelle on peut aussi être inquiet pour la démocratie.
Là, c'était en 2021 encore. Hein. J'allais venir à aujourd'hui 2025.
Oui, c'est-à-dire que c'était avant
le 7 octobre 2023.
Avant le 7 octobre 2023, oui.
Et vous êtes aussi, vous nous l'avez dit dans les épisodes précédents, une observatrice du temps présent. Nécessairement, cela nourrit vos études sociologiques, Dominique Schnapper. On est rentré dans une nouvelle étape après le 7 octobre 2023. Oui. Qu'est-ce qui a changé du point de vue de cette condition juive en France ?
Je pense que ça a accentué de beaucoup cette évolution qui, encore une fois, d'après les statistiques officielles des délits qui sont recensés par le ministère de l'Intérieur et par les organisations juives, a commencé avec le 21e siècle. Et vous remarquerez que les deux tours, c'est aussi 2001, curieusement. C'est un moment donné, au même moment, on a cet événement en Amérique et on a la montée des
chiffres. Vous voulez dire le 11 septembre 2001 ?
Oui.
Les dire, oui, bien sûr. Oui. Les deux tours
de New York. Donc, la situation a bien changé. Elle s'est accrue. Et encore une fois, je pense que c'est tout à fait lié à la crise de la démocratie. Avec une grande différence avec les années 30, c'est que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, défendent les principes républicains. Ce qui est une grosse différence avec ce qu'on a connu dans d'autres périodes. Mais en même temps, on a le sentiment que ce qu'ils disent est tellement affaibli que ça a peu d'influence sur les comportements sociaux. Et il y a, depuis donc ce quart de siècle, il y a trois courants d'antisémitisme qui se sont développés. Il y a les restes de l'antisémitisme d'extrême droite classique que représentait Jean-Marie Le Pen et son obsession sur le sujet, qui continue à exister marginalement. Il y a le nouveau courant de l'extrême gauche, dont on a vu les débuts à la suite de 68, qui, au nom de la défense, qui peut être tout à fait légitime, des droits des Palestiniens, nourrit un véritable antisémitisme en mettant dans la même catégorie toutes sortes de manières d'être juif et d'attitudes différentes à l'égard du problème. Et puis, il y a un courant d'une partie des musulmans qui ont le sentiment, il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus, qui ont eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de mépris pour les juifs dans les sociétés musulmanes traditionnelles et qui ont le sentiment que les juifs réussissent mieux dans cette société et qui retrouvent les vieux thèmes, qu'ils ont de l'argent et du pouvoir. Et l'antisémitisme musulman vient se connecter. Ces trois courants se renvoient les uns aux autres et font qu'il y a vraiment une nouvelle étape.
Ça, c'est du point de vue de l'antisémitisme. Oui. De l'autre côté, du point de vue de la condition juive, c'est-à-dire du sentiment de judéité ou de la façon d'être juif en France, que diriez-vous ? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce qui domine, c'est la peur ? Ce que vous ressentez ?
Le sentiment de peur existe, le sentiment de solitude aussi existe. Et le sentiment du retour du tragique. On était sorti du tragique, le tragique était du passé, il n'était pas du présent. Et ce sentiment du tragique émanant du présent, ce qui fait une grande différence.
Il y a un livre formidable qui a paru en janvier 2025 en littérature qui s'intitule « Toutes les vies de Théo », signé Nathalie Azoulay, et qui raconte un mariage brisé par le conflit israélo-palestinien. Un livre dans lequel la femme est juive, et c'est un livre qui raconte la difficulté d'être juif et de ne pas l'être quand on vit avec une juive ou un juif et quelqu'un qui ne se le disait pas mais qui a été rattrapé par l'histoire. Et Léa, la jeune femme de ce livre, dit « Nous seuls comprenons qui nous sommes, ce que nous endurons », et elle devient malade d'être, je la cite, « détestée à ce point d'avoir autant d'ennemis ». Et c'est peut-être ça qui ressort le plus aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, il y a eu des jeunes qui ont dit, mais une fois, dans un entretien, il y a eu un très jeune qui m'a dit, mais pourquoi ils nous détestent tellement ? Et Daniel Cordier, qui est la seule personne que je connaisse qui a vraiment raconté comment il était antisémite dans sa jeunesse et comment il a cessé de l'être, raconte aussi, à 18 ans, dans la bourgeoisie catholique de Bordeaux, ben on était antisémite sans même y réfléchir. On était maurrassien, ça allait de soi. Et pourquoi ils nous détestent tellement ?
Merci Dominique Schnapper. Il nous reste à voir, puisque vous l'avez évoqué et que c'est l'autre motif majeur de votre œuvre, il nous reste à voir en quoi la démocratie a partie liée aujourd'hui avec le malaise de la société française, en quoi la démocratie se porte plutôt mal et quelles sont les solutions pour pouvoir revitaliser cette démocratie. Ce sera le sujet de l'épisode 5. Quel avenir pour la démocratie ? À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Dominique Schnapper, réalisation Assia Weber, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.